Vous écoutez Cinécast, le podcast cinéma présenté par Guillaume Herings et Thibaut Van der Werve. Au programme, l'actualité du grand écran et les nouveaux films à l'affiche cette semaine en Belgique. Bref, votre condensé d'infos ciné à ne pas manquer. C'est parti. Bonjour à tous, vous écoutez Cinécast, saison 2. Vous ne rêvez pas, on est là pour une saison 2, on est parti pour une bonne cinquantaine d'épisodes à mon avis, avec toujours Thibaut Van der Werve, notre invité spécial compère si je puis dire, pour ce podcast.
Je suis ton invité maintenant.
Oui, c'est ça. Je veux commencer l'année en te représentant à tout le monde, c'est ça l'idée.
Merci, c'est gentil. Quel
honneur. Thibaut, qui n'est pas tout seul cette fois-ci, on n'est pas qu'à deux, puisqu'on a Élise Nénartz, qu'on connaît bien parce qu'elle faisait partie de l'escouade à Cannes, avec notamment Eric Vakunsev qu'on a vu sur le podcast et également Constant Carbonel. Puisque Élise en fait est une journaliste cinéma à l'avenir. Bonjour Élise.
Bonjour Guillaume. Bonjour Thibaut.
Alors aujourd'hui on va avoir un programme assez complet puisqu'on va passer 3-4 films en revue pour la semaine et on va commencer comme d'habitude par notre fameux box-office. Bon, pas le box-office la semaine passée mais le box-office de notre break, c'est-à-dire de l'été 2018, où on va parcourir ensemble les 10 films qui ont le plus fonctionné, en tout cas à l'international, en prenant des chiffres, comme toujours, des chiffres en dollars, des chiffres américains, des gros chiffres qui tâchent. Donc c'est rarement des films d'auteur, hein, qu'on le dise tout de suite, mais il y a des bonnes surprises, il y a surtout des films qui ont un peu fait du flop, donc on va commenter chaque film dans la liste, en fonction de l'impression, et si c'est un résultat surprise ou non. Oui, je sais Thibaut, tu es déjà en train de parler de Mission Impossible 6 dans ta tête, il est en train de venir comme ça. Mais on va reprendre la liste.
Meilleur film de l'été.
C'est ça, on va reprendre la liste un par un. À commencer par Les Indestructibles 2. C'est pas une énorme surprise. S'il a fait plus de 600 millions, en tout cas aux États-Unis, en box-office. C'était un peu le film animé de l'été. Hein. Je sais pas si vous avez d'autres grosses suggestions pour l'été en termes de films animés familial.
Il y a un autre film qui est dans le top 10 et dont on parlera après.
C'est ça.
Ouais. Je n'ai pas vu d'ailleurs.
Mais... C'est vrai ?
Ouais.
On va en parler après.
C'est quoi ? Hôtel Transylvanie 3 ?
Exactement.
Ouais, tout à fait. Summer Vacation.
Ouais.
Tu l'avais vu ?
Oui, je l'ai vu. J'ai vu les deux, Les Indestructibles et Hôtel Transylvanie 3. Ben oui, je préfère clairement Les Indestructibles, mais ça m'étonne pas en même temps parce que Hôtel Transylvanie se classe bien parce qu'en soi, il y avait pas énormément de trucs pour les enfants, je pense.
Il y avait absolument rien, à part Christopher Robin aussi en fin d'été, mais.
Ah oui.
Mais oui, effectivement.
C'est quoi encore le nom en français du film Christopher Robin ?
Aucune idée.
C'est pas Jean-Christophe ou un
truc comme ça ? Jean-Christophe et Winnie. Jean-Christophe et Winnie.
Ouais. Un nom vraiment dégueulasse. Deuxième film de l'été, c'était Jurassic World Fallen Kingdom. C'est vraiment pas une surprise du tout. Qui était la grosse sensation qu'on avait eu le plaisir d'aller voir ensemble, Thibaut.
La grosse daube ?
Non. On a vu ça en 4DX.
C'est vrai.
D'ailleurs, je sais pas si vous avez pu remarquer, on était dans une vidéo critique de nos amis Ciné News pour parler de ce phénomène de la 4DX, cette espèce de psst que tu as dans les oreilles toutes les 10 minutes qui est très très saoulant. Tu as eu l'occasion de le voir toi aussi ?
Oui, ben, je l'ai vu aussi en 4DX en fait. Et moi, c'était ma première expérience 4DX et j'avoue que je me suis quand même amusée parce que je ne ferais pas ça tous les jours, mais ça fonctionnait bien avec ce film-là. Et le pchit, effectivement, est parfois un petit peu agaçant parce qu'il y en a énormément. L'eau aussi, on reçoit quand même beaucoup d'eau dans la figure, mais je trouve que ça fonctionne.
C'est soft en eau quand même. Hein.
Mais c'est le premier que je faisais.
C'est des mini gouttelettes. Non, je trouve que c'était vraiment soft pour l'eau.
Peut-être que ton réservoir n'était pas chargé.
Peut-être.
Bon, l'avantage, c'est que ça a permis de rendre le film un petit peu meilleur, hein, quand même.
Oui.
Plus divertissant, on va dire ça comme ça.
Oui, c'est une façon de parler.
Et Thibaut, comme d'habitude, dubitatif. troisième film de l'été, c'est Deadpool 2. Donc ça reste un gros carton. Hein. Le premier, je crois, avait fait un meilleur résultat, quand même, de manière générale. Mais le 2 suit bien. À mon avis, on va avoir un Deadpool 3. Ah non, ils avaient dit qu'il y avait carrément un Deadpool Universe, hein, c'est ça qui était sorti cet été. Ils avaient
J'ai
dit...
un peu perdu le fil concernant Deadpool, je t'avoue.
Ouais, ils vont faire genre une Justice League à la Deadpool. Ça va être particulier, ça. Quatrième film, c'est Ant-Man.
Encore une suite. Et encore un épisode 2.
Tout à fait. Ça, c'est, pour moi, c'est une surprise parce que je me suis. Enfin, ça a l'air d'être le moins marketable, entre guillemets, des films Marvel.
Bah, c'est plus compliqué, mais je trouve que c'est un des plus sympas. Même si la suite, elle est pas exceptionnelle, elle est quand même moins bien que le premier, mais il a un chouette casting et c'était cool. Élise, tu as eu la chance de rencontrer.
Eh oui, oui, oui. Tu as eu la chance de rencontrer Michael Douglas.
Il y en a qui ont de la chance. Hein.
C'est bien de travailler à l'avenir.
Ouais,
franchement, je pense
c'est
que
bien,
tu
bien.
Fais un petit plug là, c'est bon.
Et de passer la journée à Disney en plus, tu vois.
C'est pas vrai.
Oh, oui.
On va arrêter de donner envie à tout le monde.
Ils ont de l'argent.
Tu vois, genre,
Chez Disney, ils ont de l'argent chez Disney.
Oui, chez Disney, bien sûr.
Journaliste, un beau métier, c'est ça. ensuite, c'est le cinquième, mais il passe au-dessus de Mission Impossible, je suis désolé, hein, Thibaut. Ouais. C'est Star Wars Solo, enfin, c'est Solo Star Wars Story, si on veut dire le titre.
Ah ouais, c'est vrai que c'était un truc des vacances, en fait.
Enfin,
ah
ouais. Il est sorti fin mai, c'est comme Deadpool et... Ouais. Ouais. C'est des films de fin de printemps, début, mais bon, on considère que c'est la saison d'été quand même, c'est les grands blockbusters.
Ils sont dans le tri pour la saison d'été, mais c'est vrai que c'est...
Ça m'étonne un peu plus, parce que le film était quand même pas génial du tout, et je sais pas si ou alors les fans ont apprécié. Moi, je suis pas fan du tout.
Je l'avais assez bien aimé, étonnamment, j'en étais le premier surpris, mais oui, effectivement, je comprends qu'il floppe un peu.
Je pense que quoi qu'il arrive, dès qu'il y a Star Wars dans le nom, ça va d'office dépasser un certain montant. Oui, après...
Bah, ici, alors je sais pas c'est quoi la période exacte qui a été prise, mais quand tu vois 200 millions, c'est quand même pas grand chose.
Ça, c'est États-Unis, hein, donc dans le classement.
C'est juste États-Unis, ouais. Mais de quand?
Ah, ça, c'est l'été tout court.
Est-ce que c'était la saison? Ça commençait déjà en mai ou non?
Ouais, en gros, ils ont pris tous les films qui démarraient, genre à mon avis, début mai, okay, jusqu'à fin août, quoi. Donc d'ailleurs Mission Impossible dans le classement est d'ailleurs 6ème, donc la page juste après, mais il y a de fortes chances que sur le total il dépasse Solo et même Ant-Man.
Oui, parce que je pense que le classement qui est là n'a pas été à mon avis mis à jour depuis au moins une semaine ou quelque chose comme ça.
Oui, non, c'est fin août quoi.
Donc oui, parce qu'on a appris qu'il avait dépassé, maintenant il est devenu il a fait le meilleur résultat de la saga Mission Impossible, il a dépassé les 700 millions dans le monde, donc voilà. Plutôt bon résultat.
Septième film, autre sujet, Hotel Transylvanie 3, ça on en avait parlé un tout petit peu. Huitième film, c'est marrant, c'est Ocean's 8. Donc c'est
8-8. Ah ouais.
Ça par contre, je ne l'ai pas vu, c'est un film que je dois rattraper. Est-ce que ça fonctionnait, le Ocean's 11 Girly Edition?
Écoute, moi je trouve que c'était moyen, mais bon, c'est une histoire d'Oceans, mais... Ça apporte pas grand chose, quoi. C'est aussi mauvais que Ocean's 13, tu vois.
Oui, mais ça restait un film d'Oceans, quoi. C'était pas blockbuster version.
Non, bien sûr. C'est une bande de bras cassés qui te font un petit coup.
Bras cassés, ça a jamais été des bras cassés avant. C'était quand même des experts dans l'art du braquage.
Ouais, mais il y a toujours des petits bras cassés dedans. Mais oui, c'est une bande qui fait un coup, ça fonctionne. C'est gentil, mais bon, on en a déjà vu beaucoup des films comme ça, donc voilà. C'était pas plus inspiré que ça.
Bon.
Moi, je ne l'ai pas vu, donc je ne sais pas.
Neuvième film, c'est Crazy Rich Asians. Alors, forcément, il n'est pas du tout sorti chez nous. Hein. C'est un film qui a fait un carton en Chine et en Asie et aux États-Unis, bizarrement. Donc, c'est un des premiers films, à mon avis, qui fait un aussi gros carton aux États-Unis, puisqu'il a plus de 130 millions de dollars aux États-Unis, alors que c'est un film asiatique. Donc, peut-être qu'on va avoir de plus en plus de films asiatiques montés dans le top 10 américain et mondial. Ce serait quand même...
C'est pas impossible, je pense.
C'est pas impossible.
Ils viennent quand même très fort.
Déjà l'an dernier, dans le top 10, il y avait deux films chinois. Hein.
C'est vrai. Des films qu'on n'a pas vus chez nous, mais ceux-ci risquent d'être un jour chez nous. Quoi.
Peut-être. Donc, si ça fonctionne vraiment bien, pourquoi pas. Mais je suis pas sûr.
Et le 10e film de Meg, avec Jason Statham.
La Stathamerie de l'été.
C'est quoi ça? Est-ce que ça vaut la peine?
Franchement, j'ai trouvé ça infâme.
Infâme.
C'est même pas amusant, quoi.
Honnêtement, moi j'ai vu la bande-annonce au cinéma d'ailleurs, je me suis dit sur grand écran ça peut donner quelque chose. Est-ce que...
Ouais, mais non. Alors le début se tient pas trop mal, et puis après ça devient vraiment n'importe quoi. Il y a même carrément un. En fait, ça va tellement dans le n'importe. C'est une surenchère en permanence. Tu te dis non, ils peuvent pas faire pire que ça, et puis si, ils font encore pire. Et c'est toujours comme ça. Et à un moment, tu te dis bon, ça va, on a compris. Il est temps d'arrêter les frais. Mais non, ils n'arrêtent jamais les frais.
Bon, je propose qu'on plonge directement... Ah non, excusez-moi, j'ai failli oublier de vous demander quel était votre film de l'été, quel était le film parmi ces 10-là où vous dites « Ok, celui-là, il faut le revoir, il faut l'acheter en Blu-ray, il faut... »
encore répondre à cette question.
Je pense que Thibaut, c'est assez clair.
C'était Mission Impossible, évidemment.
Mission Impossible 6, tout à fait Fallout, en tout cas, en ce qui me concerne aussi, personnellement, c'était mon film de l'été.
Oui, c'est vrai que... Pourtant, moi, je suis vraiment pas fan de Tom Cruise. Voilà. C'est dit, mais...
Pas fan d'un point de vue carrière ou pas fan d'un point de vue personnel, personnalité?
Non, parce que j'ai rien personnellement contre lui, c'est juste que c'est pas ma cam, spécialement les films de Tom Cruise. Sauf, oui, je dis pas, dans sa carrière, forcément, il a une grande carrière, je reconnais, il a fait énormément de films différents, donc il y a toujours bien un ou deux que j'aime bien, mais Les Missions Impossibles, en tout cas, c'est pas spécialement le truc que j'adorais. Je suis allée le voir par curiosité, parce que tout le monde m'a dit que c'était bien, effectivement, c'était très bien. J'ai même rattrapé le 5 après. Mais il m'en manque.
Le 6 avant le 5.
Oh là, ça commence par là.
J'ai vu le 6 avant le 5. Mais j'avais vu le premier que j'avais adoré. Je crois que c'est après. J'ai vu le 2 et le 3. Et voilà. c'est là que j'ai décroché. Donc oui, pourquoi pas, mais c'est impossible. Ou quand même Les Indestructibles 2. Même si ça vaut pas le premier, il y a quand même des trucs assez sympas dedans, je trouve.
Voilà. Comme ça, on a un peu voilà. Tout comme choix. On n'a pas que Tom Cruise.
Oui.
Même s'il court très très bien, et cette séquence où il court dans Londres est géniale. Ouais. C'est du Tom Cruise action comme on les aime. Bref, si on parlait maintenant de la nouvelle année, parce que c'est le but aussi de l'émission, c'est de faire la rentrée. Bah, en parlant de rentrée, oh, quelle transition, je suis très content, je suis très fier de moi. J'ai bossé cet été. Première année, un film de Thomas Lilti, qui est un réalisateur qui nous a déjà donné des films avec un thème particulier, qui est le thème de la médecine, puisqu'il y avait le film Hippocrate, qui était Vincent Lacoste, grosso modo, en interne, hein, dans un hôpital, et Médecin de campagne. Ça, je n'avais pas vu par contre, mais... à juger le titre, enfin voir par le titre.
C'était un médecin de campagne.
Un médecin de campagne, waouh.
Joué c'est... par François Cluzet.
Surprise.
C'était pas mal.
C'était pas mal. Donc, Hippocrate aussi, d'ailleurs.
Hippocrate aussi, tout à fait. Moi, j'ai vraiment bien aimé ce film. Du coup, j'attendais avec impatience première année. Je pense même que je l'avais mis dans ma liste des films les plus attendus de l'année. Je suis très enthousiaste.
Je pense.
Avec Vincent Lacoste, de nouveau, hein, qui était dans Hippocrate aussi, et William Lepgill. L'histoire du film, pour un peu faire le recap avant qu'on passe la parole à William, qu'on a eu au téléphone récemment, qui va nous répondre à 2-3 questions, notamment sur comment fonctionne le système de tri à l'entrée des universités françaises, enfin à l'entrée, à la fin de la première année, des universités françaises pour la médecine, puisque c'est différent de chez nous en Belgique. En France, il y a un tri qui est très 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 sélectif. Sur 3000 élèves en général, il n'y en a que 300 qui sont admis en deuxième année. Donc c'est 10% de la classe. Et donc le film parle de ça, il traite en fait l'histoire de Antoine, qui est un jeune étudiant qui entame sa première année de médecine, pardon, Antoine pour la troisième fois, parce qu'il a à chaque fois raté, c'est le personnage de Vincent Lacoste, et il y a Benjamin, un petit nouveau, interprété par William Lepgill, qui arrive directement du lycée et qui par contre... a l'impression que ça va être une promenade de santé, donc il va un peu se percuter face à la réalité qui est le fameux tri sélectif français. Je propose qu'on écoute William qui nous parle de ça.
En fait, en France, donc, il y a la première année commune aux études de santé, donc ça s'appelle la PACES. Donc c'est une première année c'est-à-dire que si on a envie d'être médecin, il n'y a aucun autre moyen en fait. Il faut faire cette première année-là. Et donc ça se passe sur 2 concours, il y a un classement, et en fait par exemple là sur une université comme à Paris, l'université de Paris Descartes, il y a 3000 élèves et il y en a que 300 qui seront admis en deuxième année à la fin de l'année, quoi. Donc c'est-à-dire qu'il y a 20% des élèves qui sont admis en deuxième année. Et et voilà, donc c'est quand même assez violent, parce qu'il y a 80% des élèves de première année qui se retrouvent en situation d'échec, quoi.
Ouais, clairement. Est-ce que toi, t'as un avis sur le fonctionnement?
Ouais, carrément. Très honnêtement, moi, j'ai l'impression que le mode de sélection, il est complètement absurde et j'arrive pas à savoir comment on peut vraiment sélectionner des médecins, alors que finalement le mode de sélection est pas du tout basé sur l'empathie ou sur les qualités de quelqu'un à être médecin plus tard. C'est juste un concours où il faut apprendre et régurgiter des informations comme ça en un temps record. Donc je sais pas, moi je trouve que c'est je trouve ça un peu absurde, ce mode de sélection.
Voilà, maintenant qu'on a un peu un aperçu de comment ça fonctionne en France, et surtout un peu de cette injustice, est-ce que toi, Élise, quand tu as vu le film, tu t'es justement senti concernée par cette problématique et cette violence qu'il peut y avoir chez les étudiants français en première année de médecine?
Oui, parce que en fait, donc Thomas Lilti, c'est un ancien médecin. Et ici, pour son troisième film, je trouve qu'il garde un ton très réaliste. On sent qu'il sait de quoi il parle, en fait. Donc oui, ici, pour moi, il y a vraiment deux grands thèmes dans le film. Il y a la vie des étudiants en médecine, mais alors je trouve que ça peut se transposer à n'importe quel cursus. En fait, c'est le stress, la compétition entre les étudiants. Bon, effectivement, il y a dans les autres, je sais pas, dans les études de Sciences Po ou de
droit,
de droit où il n'y a pas vraiment de sélection finale. Mais je trouve que dans le côté étudiant qui travaille, qui passe des nuits blanches à boire des Red Bull pour étudier et boucler sa matière, c'est vraiment immersif. Et après, ouais, le deuxième thème de la compétition, de la confrontation entre les deux milieux, moi je trouve que c'est ça quand même le plus intéressant dans le film et qui concerne tout le monde en fait.
Et toi Thibaut, qu'est-ce que tu en as pensé de cette confrontation entre les deux personnages issus de familles différentes, hein? C'est aussi un des grands aspects du film.
Bah clairement, c'est l'élément le plus intéressant du film, parce qu'ils n'ont pas du tout, outre leur milieu, ils n'ont pas du tout la même approche des études. Il y en a un qui a des facilités, clairement, et l'autre, il doit trimer quand même malade pour arriver à des résultats satisfaisants. Et vraiment, c'est là, c'est quand Thomas Lilti met l'accent sur cette compétition entre les deux que ça devient le plus intéressant. Cela dit, c'est pas une compétition pure et dure entre deux, c'est plus une compétition entre tous les étudiants, parce que deux, évidemment, ils vont s'entraider par moments, ils vont se déchirer à d'autres. Donc le parcours que Lilti va montrer avec ces deux personnages est l'élément central du film, et c'est ce qui permet au spectateur de rentrer dedans, en fait, parce qu'au final la structure narrative du film est assez classique, mais il arrive à, avec des éléments assez simples et en parlant très bien de certaines choses, à faire rentrer les spectateurs complètement dans son histoire.
Alors moi personnellement, il y a un aspect du film que j'aimerais bien discuter un peu avec vous. Par rapport à Hippocrate, toi tu n'as pas vu Hippocrate, hein, Thibaut, mais toi Alice qui l'a vu peut peut-être être alignée par rapport à ma pensée là-dessus. Dans Hippocrate, on suivait donc un personnage qui allait dans un hôpital pour faire son stage, entre guillemets. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de choses qui se passaient différemment, et on avait vraiment un sens du personnage plus profond. Ici, en 1h20, 1h30, on a pas mal de sujets qui sont traités, pas mal de séquences à gauche, à droite, séquences émotions, séquences d'engueulades, séquences de bazar, etc. Et je trouve que, justement, en ayant balayé tous ces sujets en 1h30, on a peut-être moins d'impact que s'il y avait eu plus de concentration sur deux ou trois thématiques précises, tout comme c'était le cas dans Hippocrate. Je pense notamment au fait que le personnage de William Lebgill, Benjamin, a un problème avec son père, qui ne voit jamais chez lui quelqu'un d'intéressant, de brillant, enfin, aucune reconnaissance pour son fils, en tout cas il en manque. Mais je trouve que c'est amené de manière un peu... on ne se sent pas très concerné par cette problématique. En tout cas, c'était mon impression en voyant le film. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, est-ce que tu es d'accord avec ça ?
Oui, en partie. En fait, j'avoue que Hippocrate, ça remonte un petit peu. Je ne me souviens pas vraiment dans les détails du film. Mais c'est vrai, si je me souviens bien, il y avait quand même beaucoup de choses qui se ressemblaient, qui ressemblent à première année, parce que il y a aussi, il me semble, une espèce de compétition entre deux internes. Il y en a un qui dont le père est médecin, comme dans première année, et l'autre qui galère un petit peu plus parce qu'il n'a pas les codes et il n'a pas baigné là-dedans. Après, effectivement, dans première année, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés, mais moi, je n'ai pas trouvé...
Peut-être un peu trop, c'est ça que...
Oui, voilà, peut-être un peu trop, mais moi, honnêtement, je me suis quand même sentie concernée par son rapport avec son père, parce que je trouve que ça fait partie un petit peu de la problématique du... En fait, le gars fait des études de médecine parce que son père est médecin et qu'il ne voit pas trop ce qu'il pourrait faire d'autre. Il ne se pose pas 1000 questions, c'est comme ça. Il tente médecine, mais en même temps, voilà, son père avait été avocat, ou enfin, il aurait fait le droit, quoi.
C'est clair. Par contre, c'est clair, ce qu'il arrive à faire, Thomas Lilti, dans ce film-ci, c'est parvenir à rendre le travail intéressant. Parce qu'en soi, quand on se dit « je vais regarder des gens étudier pendant 1h30 », on connaît tous les séances d'études, c'est pas très passionnant. Mais là, il a réussi à rendre en fait ces scènes de bibliothèque, ces scènes d'auditoire, etc., vachement prenantes et criantes de vérité. Parce que même si, bon, l'université, moi, j'ai pas été, j'ai fait haute école, etc., mais... de ce que j'ai pu voir ou ne fût-ce que sentir en allant une fois à gauche, à droite, je ressentais vraiment cette espèce de l'esprit de camarade, en fait, la camaraderie qu'il peut y avoir entre les étudiants, entre je te prête mon syllabus, on fait un test, etc.
Il y a une scène qui est particulièrement réussie dans le film, c'est celle où les deux personnages révisent à deux chez un des deux, et il y a eu un schéma qu'un des deux ne comprend pas. et que l'autre va expliquer de manière hyper concrète en plaçant deux poubelles qui représentent je sais plus quelle artère.
Faut ou pas etc. essayer de se rappeler enfin, voilà, de quoi ça représente.
Exactement. Parce que... je me souviens que ça parlait du cœur. Et donc ils vont mimer vraiment comment se passent les choses et ça je trouve ça assez intéressant. Et
ouais, ça dynamise un petit peu les séances où ils sont assis avec leurs bouquins.
Complètement.
En tout cas, enfin, se faire répéter.
C'est assez varié, c'est ça qui est bien.
William me disait au téléphone, hein, vous pouvez lire d'ailleurs l'interview complète sur synopsis.com. On mettra un lien dans la description de l'épisode. Il me disait notamment qu'en fait, pour toutes ces scènes de dialogue où il y avait des mots très compliqués, des termes techniques hein, par rapport à la médecine, ils ne connaissaient absolument pas. Et justement, Thomas essayait de leur expliquer les termes en utilisant des objets. C'est là que c'est venu un peu cette idée de mettre ça en scène, en fait, de rendre ça très simple, alors que pourtant c'est très compliqué. Et donc, il devait un peu apprendre le chinois quoi, pour ce film. Il ne comprenait absolument pas de quoi il parlait. Ce qui doit être assez intéressant.
Mais c'est ça, je trouve que dans le film aussi, comme dans les précédents, Thomas Lilti arrive à rendre ça intéressant et accessible à tout le monde. Parce que, didactique. Comme lui-même est médecin, il aurait pu passer dans le côté vraiment rébarbatif. Et je pense qu'il a réussi assez bien à vulgariser ça. Et je pense aussi qu'il a vraiment une démarche quasi documentaire. Parce que j'ai lu que. Il s'était rendu dans des auditoires parce que bon, pour lui évidemment ça remonte un petit peu les études et il a fait une démarche journalistique en se rendant dans les auditoires, en allant interroger des étudiants.
Ils ont rencontré des étudiants de deuxième, voilà. Vincent et William pour préparer le film avec eux et donc ils étaient assez choqués justement de voir toute l'entraide qui existe entre les deuxièmes années et les premières années parce qu'ils croyaient que c'était très compétitif et que personne s'adressait la parole dans l'auditoire, ce qui n'était pas du tout le cas. Donc voilà, ça c'est un peu notre sentiment général sur Première Année, qui du coup est un film, pour résumer, hein, accessible à tous, qui traite d'un sujet, pourtant à la base on pourrait penser que c'est pas du tout accessible, mais c'est une histoire aussi familiale, d'amitié, enfin ça reprend toutes ces choses-là. Si on pouvait éventuellement le comparer à un autre film, si on avait la fameuse phrase hein, « vous allez aimer si », qu'est-ce qu'on pourrait dire aux auditeurs, Thibaut, si t'as une idée ?
C'est une bonne question.
Élise alors question, peut-être.
Là j'ai pas de nom qui me vient comme ça, mais il y a quand même déjà eu d'autres films sur le monde étudiant. Après non c'est pas la même chose. Il y en a un de un film sur les étudiants, mais c'est beaucoup plus trash.
Il y a grave.
Oui c'est ça.
Non oui c'est pas grave. Non c'est pas grave c'est. Non, j'ai réfléchi.
Ah, forcément Hippocrate, hein, si vous avez Hippocrate, je pense que ça reste tout à fait...
Ah oui, de toute façon, les deux premiers films de Thomas Lilti sont une bonne introduction.
De Chapiron.
De Kim Chapiron, la crème de la crème.
Oui, voilà, il y avait un côté vie d'étudiant, sauf que bon, là, ce n'est pas des étudiants en médecine, c'est des étudiants
effectivement,
en HEC, quelque chose comme ça.
Oui, je crois que c'est plutôt école de commerce.
Ouais, même si, en tout cas, la vie étudiantine, les soirées TD, etc., dans ce film-ci, on ne les voit pas trop.
Non, non, c'est ça.
Non.
C'est très syllabus, bibliothèque, et même pas de petite copine, hein, j'ai envie de dire. Enfin, peut-être. Donc, quelle est votre note sur ce film ? Moi, je donnerais un 3 sur 5.
Pareil.
Bah oui, moi aussi.
Sachant qu'on ne peut pas faire des 3,5 sur 5. Sinon, j'aurais donné 7 sur 10. Oui. Mais je ne peux pas, donc je dis 3. Enfin, j'arrondis vers le bas.
3 étoiles, c'est très bien.
3 étoiles dans ce cas-ci.
Ouais, d'accord.
Si on parlait un petit peu de votre teint, parce que vous avez tous les deux été à la Mostra de Venise, alors je suis un petit peu jaloux quand même, je tiens à vous le dire.
Je suis plus bronzé que Thibaut.
J'ai vu vos,
c'est pas compliqué.
Vos Instagram, vos apéros spritz, et je me suis dit. Oh là là.
Alors, il n'y a pas eu que des spritz. Hein, on a vu pas mal de films.
Est-ce que c'est
non,
comme à
des Bellini aussi, c'est vrai.
C'est comme à Cannes, il y a une terrasse avec des SP gratuites ou on n'en est pas encore là ?
Non.
Pas encore là ?
Bon. Non. Cela dit, on paye son accréditation à Venise.
En plus.
On paye, c'est combien ? Ça coûte combien ?
C'est 60 euros.
Ça va encore.
Berlin, c'est pareil.
C'est moins cher que Gand.
C'est moins cher que Gand.
Par contre, il faut se taper Venise. Voilà, c'est peut-être une chose plus compliquée. On va peut-être parler d'abord du palmarès. Après, peut-être plus tard dans l'émission, on fera un peu les films qui vous ont impressionné hors palmarès. Comme ça, on fait un aperçu. Et on ne fait pas 30 minutes sur le palmarès et 30 minutes sur les aperçus. Donc, Thibaut, je propose que tu prennes le relais, puisque moi, je n'étais pas là, donc je ne peux pas...
Mais pour l'instant, je vais parler un peu tout seul. Parce que Élise m'a rejoint un peu plus tard, après le début de la Mostra. Et donc, elle a loupé quelques gros films, dont quelques-uns qui sont dans le palmarès, justement, dont le Lion d'or, qui est Roma, d'Alfonso Cuarón, une production Netflix, en noir et blanc.
J'ai entendu qu'il n'y a plus le Tudum au début du film.
Non, il n'y a plus le Tudum, ils ont changé de générique.
D'accord. Par contre, maintenant, tu sais me le faire en audio ou
Non. Non, mais t'as plusieurs lignes de couleurs comme ça qui forment le N. D'accord. Qui devient rouge après.
Donc ils essaient de un peu casser le, ouais, le lien pour l'industrie.
C'est,
quoi.
C'est marrant.
Et pour Romain, il était en noir et blanc.
Ça m'a pas marqué pour le Paul Greengrass, c'est aussi Netflix.
Oui, c'est ça.
Je me souviens pas, en fait. Je me souviens pas du
Mais voilà, je sais pas quand il débarquera sur la plateforme, mais en tout cas, il y a un nouveau générique.
D'accord. Donc c'est Roma.
Roma d'Alfonso Cuarón. De quoi ça parle? Un film rapidement. Superbe sur Roma étant le nom d'un quartier de la ville de Mexico City.
D'accord. Et pas Rome, quoi.
Voilà. Et ça parle de la vie de ce quartier, d'une maison dont il y a des muchachas, des dames qui s'occupent de la vie de tous les jours.
Hein, on dit muchachas café, en espagnol.
On dit des muchachas. Des muchachas. Effectivement. Et tu vois aussi la vie de la femme, de la maîtresse de maison et de ses enfants, etc. Et ça se passe entre autres durant certaines émeutes estudiantines. Mm-hmm. Donc voilà, je vais pas. On parlera plus longuement du film.
Oui, à sa sortie,
fois.
Bien sûr. Hein.
À sa sortie. Oui, parce qu'il faut le préciser, le film sortira en salle en Belgique.
Ça,
Il sera projeté normalement, rien n'est officiel, mais au Cinéma Palace, ça on le sait. Mm-hmm. A priori, ce serait au mois de décembre.
Est-ce que tu crois que c'est pas une technique de la part de Netflix de dire on va quand même sortir ce film en salle pour que l'année prochaine on puisse aller dans d'autres festivals comme par exemple Cannes?
C'est une bonne question qui se pose clairement. Après, la réponse, je ne l'ai pas, mais
non, ça, forcément.
Le cas de la France est particulier vu qu'ils ont. Officiellement, il y a la chronologie des médias qui autorise les films à être diffusés sur des plateformes comme Netflix 36 mois après leur exploitation en salle. Donc ça fait 3 ans. En France, c'est pas possible. Chez nous, c'est possible parce qu'officiellement, il n'y a pas de chronologie des médias.
Ouais.
Donc c'est pour ça que ça sort.
D'accord.
Mais voilà, du coup, outre la sortie Netflix, ce sera possible de le voir sur le grand écran.
Et c'est bien pourquoi, Romain ? Quel est le
parce
le
que c'est hyper plus. Touchant, c'est, ouais. C'est un film très personnel pour Alfonso Cuarón, et il arrive à parler de ces sujets qui sont hyper, hyper simples et très classiques, mais il filme ça de manière absolument superbe. Il a un certain sens du cadrage, il fait de super plans séquences, ça c'est une de ses spécialités. Voilà, je parlerai bien volontiers plus longuement
Ensuite,
du film.
Ensuite, Le Lion d'Argent, on a un des réalisateurs favoris, en tout cas,
ah oui.
Tu en parlais beaucoup l'année passée.
Ouais. Le Grand Prix du jury, Yorgos Lanthimos, The Favorite, un autre film que Elise n'a pas encore vu, malheureusement.
Ça a l'air complètement barjo, ce film.
Qui parle de la reine d'Angleterre, alors là, je ne sais plus laquelle.
Avec Emma Stone dedans.
Avec Emma Stone, ouais. Et Rachel Weisz. Mm-hmm. Et la reine est jouée par Olivia Colman, qui a également eu le prix de la meilleure actrice. Donc The Favourite a eu 2 prix. Et ça parle vraiment de ce triangle amoureux entre la reine, sa favorite, et une nouvelle favorite qui arrive dans le palais. Donc,
c'est
voilà.
Ça, quoi.
Un super beau triangle amoureux, très, très piquant, plein de cynisme et d'humour piquant. C'est vraiment le mot. Il y a des blagues qui, dans cette période Me Too, etc., sont assez drôles.
Aurait pu ne pas passer sous certaines censures, tu penses ?
Peut-être.
Ensuite, Jacques Audiard, le grand absent de Cannes.
Meilleur réalisateur.
Meilleur réalisateur.
Oui, alors absent de Cannes, parce que c'est le film qui a voulu ne pas aller à Cannes.
Oui, bien
parce
sûr.
Parce qu'il vise
sûr.
Les Oscars. Oui, mais The Favourite et Roma, Cannes les voulait. Mais pour les premiers, Roma, c'est Netflix, pas possible,
qu'il a eu,
on
hein.
l'a dit. Et The Favourite, à nouveau, c'est la production qui n'a pas voulu y aller non plus. Donc,
d'accord.
Alors que les précédents...
Alors que les précédents, Lanthimos était à Cannes, ouais.
Et on a un film aussi avec, de nouveau, Vincent Van Gogh.
Oui. Mais attends, Jacques Audiard sur The Sisters Brothers... Oui, tu vas très vite. C'était un des films préférés d'Élise, quand même.
Oui, en même temps, c'est parce que j'ai raté les gros films. Je n'ai pas vu Roma, je n'ai pas vu... Le Lanthimos, je n'ai pas vu...
pas vu Ryan dans l'espace.
Je n'ai pas vu Ryan dans l'espace, je n'ai pas vu Suspiria, je n'ai pas vu celui des frères Cohen, enfin voilà, tous les gros films oui. du début de festival, je les ai loupés.
La prochaine fois, tu viendras le premier jour.
Voilà, la prochaine fois, je serai
intelligent. C'est vrai qu'ils ont démarré très fort, hein. Après, je ne sais pas si ça a suivi, mais...
Moi, j'ai quand même vu des bonnes choses, honnêtement, dont le Jacques Audiard, moi, j'ai vraiment aimé, parce que... Voilà, j'ai une petite faiblesse quand même pour les westerns. Et là, je trouve qu'il se réapproprie bien le genre, alors que bah, c'est pas du tout sa culture. C'est un réalisateur français, il a rien à voir avec, avec tout ce monde-là. Et je trouve que c'est l'adaptation d'un bouquin. Et il a ajouté quelques petits trucs, je pense, en plus du bouquin. Il y a beaucoup de choses qui étaient dans le bouquin, mais il a rajouté pas mal de côtés vraiment Audiard. Et je trouve que ça fonctionne bien. Et la relation entre les deux frères, qui sont donc les frères Sisters, d'où le titre un peu spécial.
Et non pas les Seven Sisters, hein, pas confondre avec un film qui était sorti.
Oui, voilà,
non.
Rien à voir.
Il y a un super casting quand même, hein. Jake Gyllenhaal, Joaquin Phoenix, ouais. John C. Reilly et Riz Ahmed. C'est quand même pas dégueulasse.
Oui, c'est pas dégueu. Il y avait du monde à côté du tapis pour les selfies.
Eh ben, non. Parce qu'à part John C. Reilly, les autres étaient pas
là. Ah merde.
Dommage, Jake Gyllenhaal, il a pas voulu aller.
Il a pas voulu se taper Venise.
Non. Joaquin Phoenix, il a juste été à Deauville, pas à Venise.
Peut-être parce qu'ils sont aussi à Toronto, peut-être pour le aussi, film aussi.
Oui.
Soit. On va enchaîner hein, avec Willem Dafoe qui avait gagné donc la coupe Volpi pour le meilleur acteur.
Mais oui, dans son rôle de Vincent Van Gogh dans le film At Eternity's Gate de Julian Schnabel, le réalisateur du Scaphandre et le Papillon. Et bah, effectivement, au niveau des acteurs, il n'y avait pas photo. À part lui, je ne vois pas qui aurait pu prétendre à ce prix.
Voilà. Ouais, on était assez d'accord, il me semble, sur...
Ouais.
Ensuite, c'est pas vraiment une surprise, un prix du meilleur scénario, c'est les frères Cohen.
Ouais. Hein, j'ai envie alors, de dire. Ça, tu le dis, pas vraiment une surprise sur papier.
Non, mais parce que les frères Cohen,
mais,
bon,
mais dans les général, faits, dans les faits, c'est quand même une surprise parce que le film est pas terrible. Ah, j'étais très déçu. Ils font partie de mes réalisateurs préférés.
Tu crois pas que c'est pour leur faire plaisir alors le prix du scénario?
Ben, je comprends pas trop.
C'est un film à sketch,
c'est un film à sketch, ça. Il y a six sketchs différents, tu vois, donc c'est six histoires différentes. Il y en a qui sont très chouettes, d'autres qui sont plus pénibles, qui, d'un point de vue vraiment purement histoire, effectivement, sont intéressants, mais en tout cas, enfin, peut-être pas intéressants à regarder, mais on voit qu'il y a du travail derrière, et en ça, c'est déjà très bien. Mm-hmm. Donc c'est peut-être aussi pour ce genre d'éléments qu'ils ont été primés. Mais petite déception quand même pour les frères Cohen, pour ma part.
Et puis le prix spécial du jury, c'est quoi la différence entre le prix spécial du jury et le Lion d'or, en fait ?
Alors, attends, prix spécial du jury et le Grand Prix et le Lion d'Or. Hein.
Ah, d'accord.
Le Lion d'Or, bah, c'est la palme, hein, c'est le meilleur.
Okay.
Par contre, la différence entre le Grand Prix du jury et le prix spécial du jury,
oui.
Là, c'est plus compliqué.
Je ne sais pas.
C'est comme à Cannes, je sais, il y a des petites différences, mais je ne les connais pas.
Il y a des festivals comme ça où tout le monde gagne un prix, comme ça, t'es là, oui, ouais, mais bon, ouais. C'est un peu...
Mais à Cannes, certains films, enfin, normalement, ne peuvent pas gagner, tu ne peux pas avoir la Palme d'Or et le meilleur acteur, tu vois.
Ah, ouais.
Ici, The Favourite, il est le Grand Prix et meilleure actrice. Et le film qui a eu le prix spécial du jury, The Nightingale, a aussi eu le prix du prix Marcello Mastroianni. D'accord. Pour le meilleur jeune acteur.
Ou jeune actrice, oui, c'est ça.
Ou jeune actrice. Moi, je pensais que ce serait l'actrice de ce film-là, mais non, c'est l'acteur qui l'a eu,
ben voilà,
qui s'appelle Baikali Ganambar. Et donc, The Nightingale, c'est un rape and revenge, une fille, une Irlandaise qui se fait violer en Australie et qui va chercher à se venger des coupables.
Voilà. Comme son titre l'indique.
Oui, mais c'est le film, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a un contexte historique et social hyper intéressant qui fait que le film se démarque des autres rape and revenge. Comme il y a eu Revenge au mois de mars. Mais ici, je trouve que le film est bien plus réussi.
Plus intéressant,
quoi. Ouais. Moins graphique, quoique la scène du viol est assez insoutenable.
C'est très violent.
T'es en apnée pendant 7 minutes parce que c'est vraiment très trash.
C'est ce genre de cinéma.
Ouais, c'est ce genre de cinéma.
Cinéma popcorn, Coca-Cola, et... ça fait plaisir.
Exactement. Mais donc voilà,
pas du tout.
J'ai vraiment beaucoup aimé The Nightingale de Jennifer Kent, qui avait réalisé Mr. Babadook.
Ah, donc, c'est voilà. Elle.
C'est
d'accord,
elle.
C'est pour ça que je me disais.
C'est la seule femme en compétition en plus. Donc,
ok, j'avais adoré.
Ça fait bien.
Donc, voilà. Parlons de vengeance, toujours, mais pas du tout dans le même contexte. Mademoiselle de Jonquière. Ah oui, c'est une histoire de vengeance, tout à fait.
C'est une histoire de vengeance, oui.
Un film de Emmanuel Mouret, pour qui on connaît principalement ses comédies romantiques.
Exactement.
Et donc, dans ce cadre-ci, c'est un film, on peut dire, d'époque. Ça se passe en 1750. C'est une histoire, en fait, basée sur le livre de Diderot. Mais qui est un petit peu adapté forcément, avec Cécile de France et Édouard Baird dans les rôles principaux. Alors, Cécile de France joue Madame de la Pommeraye, qui en fait est une veuve qui est un peu retirée de la société parisienne, qui se fait toujours courtiser par le fameux marquis des Arcis, qui est Édouard Baird, qui est un libertin concrètement. Donc, il reste avec une femme, à bout de 2 ans, il dit écoute, j'ai des affaires à faire à Rouen, là, je dois construire un truc, un salaud, un de plus. Et donc, Elle tombe amoureuse de lui, lui il part, forcément, c'est un peu la suite logique, mais elle va décider de se venger, elle va pas en rester là. Et elle va monter tout un traquenard, toute une espèce d'embuscade avec notamment la fameuse mademoiselle de Jonquière qui va l'aider. Volontairement ou involontairement, ça c'est le film qui nous le dira, à avoir la peau du marquis.
Ouais.
Alors,
ce qui est intéressant déjà, c'est en fait c'est adapté d'une partie d'un livre de Diderot. C'est pas un livre en entier, c'est vraiment une séquence, un passage du livre. Et Emmanuel Mouret a décidé d'en faire un film entier. Et ce qui fonctionne bien, en fait, c'est que, alors que c'est juste une simple histoire de
personne ça pourrait être 20 minutes,
qui va se venger, clairement, ça pourrait être résumé hyper rapidement. Emmanuel Mouret arrive à en faire quelque chose de très intéressant à suivre, et notamment grâce aux personnages déjà, et surtout aux dialogues qui sont, je trouve, assez savoureux.
Ils sont succulents.
Il y a plein de piques, il y a des.
Et puis, vous me donnez envie de le voir, en fait.
Il y a la tournure un peu de la façon de parler de l'époque.
Enfin, oui.
Peut-être pas de l'époque, mais en tout cas...
Très, très, très théâtral au début. On a un petit peu peur, pour être franc. C'est pas du tout mon style de film.
Ouais.
Et donc, au début, il y a des plans un peu longs où tu sais, on installe vraiment le texte, le truc. Tu te dis, oh là là, qu'est-ce qui va se passer?
Surtout avec Edouard Bert.
Oui, voilà, ça part un peu.
C'est un beau parleur.
Si on le laisse parler, on ne coupe pas, ça peut durer très longtemps, lui.
Là, il a un dialogue, à mon avis, pas comme dans ses émissions radio, mais là, tu sens vraiment au début le côté très classique, tu dis oula. Mais en fait, très vite, cette histoire de vengeance avec ce complot qui va être mis en place et tout, te prend dans le film. Et je pense qu'une des qualités du film, c'est qu'il va directement à l'essentiel, il va pas perdre du temps à nous mettre des personnages X, Y, Z. Il y a genre 4-5 personnages dans le film, pas plus. Et en 1h20, l'affaire est pliée et on te raconte vraiment l'histoire. On perd pas du temps. Et c'est ça qui rend le film pour moi efficace et qui parvient en plus à avoir une époque qui est bien remise à l'écran, quoi. Ouais. Ça, c'est clair.
J'ai eu un peu de mal à rentrer dedans au début, mais une fois que... En fait, on pense que le film va dans une certaine direction, et puis non. Et puis même, cette histoire de vengeance, les spectateurs ne savent pas forcément tout, donc il y a plusieurs choses qui se mettent en place et qui sont vraiment très entraînantes. Donc on rentre assez facilement... passer un certain temps, on rentre facilement dans ce que Mouret essaye de faire, et fait bien d'ailleurs.
Faut faire attention parce que c'est vrai que la promotion pour le film, les affiches, la bande-annonce, etc.
Ça fait un peu vieillot.
Ça fait un vieillot, et deux, ça fait un peu cucu.
C'est vrai.
Mais en fait, je trouve que le marketing pour le film n'est pas bon parce qu'il surfe un peu sur la vague, sans doute peut-être du réalisateur qui a fait des films romantiques, etc., pour nous vendre un peu nos romances entre guillemets à la con. Mais le film part, comme tu disais, dans autre chose. Et c'est vraiment. C'est pas du tout. Moi, j'avais l'impression quand je voyais les posters que c'était un peu le retour du héros 2, tu vois.
Oui.
Et je me suis dit, quoi, on va faire ça encore une fois. Mais en fait, non, pas du tout. Il exporte vraiment bien ce côté. Les deux personnages, en fait, qui sont tout à fait opposés. D'un côté, il y a le libertin qui est très respectueux, quand même, des gens, malgré le fait qu'il soit libertin. Mais par contre, la marquise, elle va. C'est pas la marquise, c'est Madame la Pommeraye, va vraiment prendre son rôle de revancharde à cœur, et un peu peut-être trop loin. Donc ça va vraiment donner une belle exploration des personnages, je trouve, ce film.
C'est très chouette de voir Cécile de France dans ce rôle, parce que c'est absolument pas ce qu'elle joue d'habitude. Et là, c'est vraiment une femme très mesquine, très manipulatrice, et elle fait ça assez bien, je dois dire.
Tout à fait. Alors que si on devait coter ce film, parce qu'Élise ne peut pas malheureusement nous aider,
et
nous
dire ce qu'elle en a pensé,
à part que maintenant tu as envie, tu vas le
voir. Voilà, c'est ça.
Tu veux voir Edouard ce soir au cinéma. Qu'est-ce que tu... Peut-être d'abord faire une recommandation. Vous allez aimer si, ou vous allez détester si, ce genre
aimer
de phrase-là.
Si les gens aiment bien les films un peu de cette période, style Madame Bovary, etc. Enfin, Madame Bovary, c'est plus tard quand même, mais... Mais on est dans ces films d'époque avec des intrigues amoureuses plus ou
les
moins
liaisons
importantes.
Dangereuses.
Éventuellement,
je sais pas,
d'une certaine façon, si, c'est un bon exemple. Et effectivement, les comédies d'Emmanuel Mouret qui sont une bonne.
Si vous aimez The Crown aussi, personnellement, c'est pas du tout le même style, mais. Voilà, moi c'est tout à fait le genre d'histoire qu'on pourrait avoir dans un épisode de Crown. Donc c'est pas mal du tout, vraiment. Je pense que je vais lui donner la même note, que pour première année, c'est-à-dire 3 sur 5. 3 étoiles sur 5, pas...
Oui, c'est bien.
Pour moi, ça me paraît être le juste prix pour Mademoiselle de Jonquière.
Effectivement.
Alors, on va continuer la discussion sur la Mostra de Venise, mais cette fois-ci en parlant des films qui ne sont pas au palmarès et qui pourtant ont fait beaucoup de bruit. N'étant pas à Venise, j'ai vu tout le temps dans mon fil d'actu 2-3 films, notamment First Man de Damien Chazelle, qui était le film attendu, en tout cas par les aficionados. A Star Is Born, avec Lady Gaga qui joue dans un film de Bradley Cooper, ça aussi c'était partout dans la presse. Après, il y a des films un petit peu plus discrets, hein, le nouveau Paul Greengrass, etc. Donc, quels sont les films dont vous pouvez un peu nous parler, les films qui vous ont fait une impression qui n'était pas récompensée?
Bah, clairement, First Man, moi j'ai adoré. Mais en tant que fan de Damien Chazelle, il y avait peu de chances que je sois déçu. Mais effectivement,
est-ce que c'est aussi bien que La La Land? C'est ça la question.
Ça, c'est difficile à dire.
C'est moins original peut-être.
Mais
parce que c'est l'histoire d'un homme qui va sur la Lune.
Ouais, mais c'est vraiment bien amené, bien réalisé. J'ai pas mal repensé au film encore après. La musique est géniale, alors qu'il n'y a pas du tout de. Enfin, on n'est plus du tout dans le jazz, etc. Mais
c'est toujours.
C'est un film de Damien Chazelle, ça se voit.
C'est déjà toujours Hurwitz qui fait la musique pour ça.
C'est toujours Justin Hurwitz qui fait la musique. Et ouais, Ryan Gosling est très bien. Il a rarement été aussi bien que ça.
Mais qu'on soit d'accord, c'est pas juste. Apollo 13, ouais. Comme ça. C'est, non, c'est genre, voilà, il va dans l'espace.
Alors déjà, mais c'était Apollo 11, hein. Apollo 13, ils vont pas sur la Lune.
Oui, non. Mais en gros, on n'est pas juste dans un film spatial, etc. On est vraiment aussi dans une histoire de famille et tout. Sur Terre, quoi. Il y a un peu des deux.
La mission, c'est la fin du film. Hein.
D'accord.
En fait, ce qui est intéressant ici, c'est voir comment Armstrong est devenu l'astronaute qu'il était. Et sa vie de famille, etc., tous les échecs que la NASA a connus aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de pilotes et d'aspirants astronautes qui sont morts en mission, donc c'est pas juste Armstrong, même si effectivement c'est le personnage principal et que le film est centré sur lui et son fait historique d'avoir été le premier homme à marcher sur la Lune, mais le film ne parle pas que de lui, il y a d'autres choses qui gravitent autour, quoi.
D'accord.
Et voilà, moi j'ai adoré, il fait partie des films que j'ai préférés à Venise.
Coup de cœur.
Ouais.
Et moi je suis contente parce que je crois qu'il sort quand même bientôt, en octobre.
Ouais, fin octobre a priori.
Je pourrais vous dire ça après.
Donc ouais. Voilà, j'irai le rattraper à ce moment-là.
Mais c'était unanime la critique pour ce film-là, parce que s'il n'a pas gagné de prix, etc., qu'est-ce qui fait pour toi qu'il a... Les autres étaient beaucoup mieux, c'est ça le...
Bah, il est plus... D'une certaine façon, il est plus classique que les films qui ont été récompensés, donc ça ne me choque pas que le jury n'ait pas plébiscité le film, mais il va fonctionner, ça c'est sûr.
Oscar ?
Bon, il aura des nominations, certainement.
Sans doute.
Bah, je ne l'affirmerai pas à 100%, mais ce n'est pas impossible.
Parlons du coup de l'autre film qui intrigue beaucoup, c'est A Star Is Born de Bradley Cooper. Alors, Bradley Cooper derrière la caméra, ça donne quoi ?
Alors, Bradley Cooper en tant que réalisateur, ça a peu d'intérêt. Niveau mise en scène, c'est le niveau zéro, quoi. C'est la base, c'est champ contre champ.
Il a un chef-op,
des caméras qui sont posées, et voilà. Ouais. Après, il est très très bon acteur. Et il a une excellente partenaire de jeu, qui est Lady Gaga, qui, elle, aura une nomination aux Oscars, ça c'est une certitude.
Elle est méconnaissable, hein, sans maquillage.
Elle est fantastique. Elle
a bien dirigé, peut-être.
Peut-être qu'elle est bien dirigée. Effectivement, c'est dire que Bradley Cooper, c'est peut-être bien dirigé, c'est comédien. Voilà. Pour le reste...
Techniquement, voilà. Peut-être que c'est pas Cuaron, justement.
Mais de toute façon, l'histoire en elle-même est hyper classique et a rien de... est vraiment pas folichonne, hein, donc moi je trouve
c'est
pas
un remake, que non, soit... c'est une histoire qui a déjà été faite 50 fois. Hein.
Bah oui, c'est quelqu'un qui devient une star et son partenaire, lui, c'est une star qui est sur le déclin. Donc,
ouais, c'est ça.
Voilà, c'est... Il n'y a pas de grosse surprise et c'est pas toujours très intéressant. Par contre, il y a des scènes très émouvantes, là, il faut le dire, c'est assez réussi. Donc voilà, tout n'est pas acheté dans le film, loin de là. Les Américains vont adorer, enfin, ont adoré déjà pour la plupart, ceux qui l'ont vu. Ici, je suis pas convaincu que ça fonctionne autant, mais je pense que la fanbase de Lady Gaga sera là et donc le film aura quand même un petit succès. Mais voilà, honnêtement, c'est pas mémorable, mais il y a de bonnes choses à en retenir quand même.
Est-ce qu'il y a d'autres films que tu veux mettre en avant, ou toi, Elise, peut-être, parce que pour
Oui, ben moi, comme j'ai raté tous ces gros films là, non, moi j'ai vraiment aimé le film de Florian Henkel von Donnersmarck, Work, comme ça,
c'est un honneur au tort.
Voilà. Et en anglais, je crois que c'est Never Look Away.
Ouais.
En français, je ne sais pas encore.
Ce sera, sera. Bah, une œuvre sans auteur, j'imagine. S'ils reprennent le titre,
s'ils reprennent le titre
allemand voilà. Traduit.
Et en fait, ce réalisateur avait marqué avec La vie des autres. Mm-hmm. Je me demande s'il n'avait pas eu l'Oscar du meilleur film étranger. En tout cas, il avait gagné beaucoup de prix dans son pays. Et puis alors après, en fait, il s'était vraiment vautré, parce qu'il avait fait The Tourist avec Angelina Jolie. Et c'était Johnny Depp, je pense.
Exactement.
Oui. Voilà. Et bah, bon, voilà, ça, de la vie générale. Moi, je ne l'ai pas vu parce que...
Il était nominé au Golden Globe, je me rappelle, alors que...
Ah ouais.
Oui, c'était et d'ailleurs, ils avaient fait une blague en disant qu'il avait été nominé uniquement pour inviter Johnny Depp et Angelina Jolie.
Je ne l'ai pas vu, très honnêtement.
Voilà, donc il, voilà, il s'était un peu planté dans son film hollywoodien. Et là, ici, il revient dans son pays... Il revient avec une histoire... Oui, il parle de nouveau du totalitarisme, parce qu'il parlait déjà de ça dans La vie des autres. Dans La vie des autres, c'était un agent de la Stasi, je pense, qui observait, qui était chargé de surveiller un artiste et de, voilà, de l'espionner pour éventuellement l'incarcérer, probablement. Oui. Ici, hein, voilà, on reparle de nouveau de la place des artistes dans des régimes totalitaires. Ça dure 3 heures. Enfin, presque 3 heures, donc c'est très long, mais honnêtement, on voit pas le temps passer, parce que c'est bien écrit, c'est parfois un peu trop facile, il y a un peu des grosses ficelles, certains ont dit que ça faisait un petit peu téléfilm, mais moi, je me suis vraiment laissée porter par l'histoire, c'est quelque chose de facile à suivre, et d'assez émouvant, en fait. On suit un peintre depuis son enfance. Donc, il est enfant quand la guerre, la Deuxième Guerre mondiale éclate. Mmh. Et on le suit jusqu'à ses 35, 40 ans, je ne sais plus très bien, au moment où il devient vraiment connu et où il commence à vraiment peindre, à révéler son identité de peintre, en tout cas. Mmh.
D'accord. Il y avait aussi dans la liste, j'ai vu, Luca Guadagnino, qui était revenu déjà.
Oui. Oui.
C'est pas
après Call Me By Your Name, avec son remake de Suspiria. Avec Thom Yorke, le chanteur de Radiohead, qui a fait la musique, la bande originale du film.
Mais décidément, après l'autre, c'était Greenwood, non, qui avait fait pour un autre film l'année passée.
Johnny Greenwood fait des bandes originales, il a fait You Were Never Really Here,
qui était nominé.
De Lynn Ramsey, et Phantom Thread cette année.
Oui, c'est ça, c'est lui qui était nominé.
Donc,
pour
excellent et donc, compositeur.
Suspiria.
C'est fidèle au film original tout en ayant quand même pas mal de différences. Moi, ça m'a plu, mais même si honnêtement, il faudrait que je le revoie parce que c'est quand même très riche. Il y a beaucoup de choses, pas mal de différences donc, qui font que l'approche est assez différente. Mais c'est bien joué, c'est très bien joué. Il y a Tilda Swinton dedans, il y a Lily James. C'est Lily James, bêtise, dans le rôle principal.
Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu non plus.
Mon coup de cœur, tu veux dire. La fille de Baby Driver.
Exactement.
Demain, il y a deux.
Ah, Lily James.
Je pense.
Downton Abbey.
Downton Abbey aussi.
Mon
crush.
Oui.
Moi, j'aime bien. On avait déjà parlé.
Mais voilà, je trouve que Guadagnino a vraiment réussi son coup. C'est pas Lily James, c'est Dakota Johnson.
C'est pas elle. Ouais.
Évidemment.
Faux espoir.
Oui, mais je les confonds toujours, elles sont assez.
Dakota Johnson, qui était déjà dans A Bigger Splash.
Qui était dans A Bigger Splash, donc le film avant Call Me By Your Name de Luca Guadagnino. Donc Suspiria, c'était un gros morceau du festival aussi. Et moi, ça m'a convaincu.
Et un dernier pour la route, peut-être le Paul Greengrass,
qui raconte la tuerie de Utøya, c'est en Norvège, avec Anders Breivik. Hein.
Ouh là là. Et alors, mais ça donne quoi ça?
Ça c'est intéressant parce que, un autre film va sortir plus ou moins au même moment. Enfin, en tout cas, moi je l'ai déjà vu.
Ils refont le fameux, on sort deux films sur le même sujet au même moment.
Voilà, c'est ça. Génial, je sais pas si c'est des hasards.
C'est déjà arrivé à Paul Greengrass en plus. Hein,
et donc moi j'ai vu les deux. Et c'est intéressant parce que ce sont vraiment deux films, deux visions très différentes. Et donc, le Paul Greengrass, qui était à Venise, s'intéresse vraiment à tous les aspects. Il développe vraiment toute l'histoire. Donc, il part de la tuerie. Mais alors après, il s'intéresse aussi au procès et à tout ce qui tourne autour. Donc, il interroge la question de la culpabilité de ce type qui, en fait... ils sont pas du tout coupables, ils pensent qu'il a tout à fait
qu'il a bien raison, fait, voilà, c'est ça. Fallait faire, quoi.
On voit on s'intéresse aussi à l'avocat qui doit défendre un monstre. Mmh. Bon, voilà, il y a beaucoup de choses dans le Paul Greengrass, mais j'ai quand même préféré l'autre parce que l'autre est complètement immersif en fait. C'est juste la tuerie, donc je pense qu'il a fait vraiment le temps exact de la tuerie.
C'est un chouette tournage.
Mais en fait, on n'a qu'une envie, c'est que ça se termine. Le film dure pas longtemps, mais voilà, je trouve que d'un point de vue cinématographique, il est peut-être plus intéressant.
Il rentre plus dans les mémoires, quoi.
Oui, voilà, moi ça m'a plus marqué que le Paul Greengrass, mais qui est très très bien aussi. Voilà.
Parlons d'un film qui t'a marqué, Thibaut. Tu m'en as beaucoup parlé. Tu m'as dit qu'il fallait absolument que j'aille le voir. Je pense qu'on sait tout ce qui va se passer maintenant. On est en septembre, hein, doucement, mi-septembre. Donc les feuilles vont commencer à tomber des arbres. Halloween approche. Donc on va commencer à avoir des films d'horreur au cinéma toutes les semaines, à gauche, à droite. Des jumpscares en 4D ou 3D, dans ce cas-ci. Non, 4DX aussi. J'ai vu qu'il était en 4DX.
Ah ouais ?
La Nonne.
Mon Dieu.
Qu'est-ce que ça donne, La Nonne, le spin-off de Conjuring ? Est-ce que c'est aussi bien comme il est marqué sur le poster ?
Non.
Ça parle de quoi ? Laisse-moi deviner. On apprend qu'il y a quelqu'un qui a disparu quelque part, dans un endroit bien sombre, bien lugubre. Ouais. Et après, on décide d'aller voir. Et quand on va voir, on tombe en effet sur une espèce de nonne désintégrée.
C'est à peu près ça.
C'est à peu près ça ? D'accord.
Ouais. Alors, je ne peux pas te dire tout ce que ça raconte parce que je suis parti. J'ai quitté la salle après une heure dix de film.
Ok, donc on n'en parle pas, zéro. Alors, on continue.
Vraiment, c'était insipide, il se passait absolument rien, ça n'avait aucun intérêt, mais vraiment aucun intérêt.
Je tiens à rappeler que tu es resté jusqu'au bout de Brillantissime, donc c'est quand même...
c'est vrai. C'est dire si j'ai beaucoup de bonne volonté. Mais le personnage de la nonne en lui-même est intéressant, on le voyait dans Conjuring 2, c'était vraiment un bon personnage de film d'horreur. Mais alors, ce qu'ils en ont fait ici, c'est juste lamentable, on s'en fout, quoi. Et c'est d'autant plus dommage qu'il y a Demian Bichir, ils ont été le sortir de sa retraite, le comédien mexicain, que je trouve qu'on voit trop peu, moi je l'aime beaucoup, mais on le voit pas assez. Et en plus, il y a un acteur belge dedans, que vous ne connaissez peut-être pas, il s'appelle Jonas Bloquet, qu'on a vu dans Elle, de Paul Greengrass, Paul Verhoeven.
Et dans le film de Joachim Lafosse.
Oui, dans Élève Libre.
Dans Élève Libre, oui, je crois voilà. Que oui, c'était lui.
C'est un ami d'un ami. le pote d'un ami. Ça.
C'est un ami d'un ami.
Qui joue dans. c'est une petite private joke en fait.
Ouais,
elle a compris ce que je voulais dire.
Oui.
Mais il a fait pas mal de films américains, des trucs à la con.
Et qu'est-ce qu'il fait ici ?
Et ici, il a un des trois rôles principaux. Donc, il y a le rôle du prêtre. Qui est envoyé donc dans cette abbaye en Roumanie.
Le prêtre.
Il y a une jeune nonne. Ouais. Il y a une jeune nonne qui n'a pas encore fait ses vœux, donc qui techniquement n'est pas encore nonne. Et il y a ce jeune homme en Roumanie qui est français et qui se fait appeler Frenchy.
Stéréotype.
Qui va leur servir de guide, etc. Okay. etc.
Français.
Et la nonne, en fait, elle est où ? Comment ?
Elle apparaît, en fait, un temps en temps. Elle fait vas-y,
ah !
Dans
les couloirs. C'est ça, c'est un espèce d'esprit. Conjuring 2 ? Non, j'ai pas vu les Conjuring. J'aime pas les films.
Les Conjuring, ils sont pas mal.
Mais oui, les Conjuring sont pas mal.
Du coup,
même si le 2 avait un peu moins d'intérêt. Mais...
Est-ce qu'il faut aller voir la nonne si on a aimé Conjuring ou même pas ?
Ben, vous allez aimer la nonne si, non, rien, vous n'allez pas aimer la nonne.
Ok.
Ça fait. Alors, j'ai été voir le film en. Les fameuses avant-premières UGC, où il y a 4 séances par jour, une semaine avant la sortie, il n'y avait aucune réaction dans la salle. Quoi. C'était assez... Ce qui est rare, parce que d'habitude, le public des films d'horreur, c'est vraiment un public un peu remuant, qui...
Qui est content d'être là.
Voilà, et ben non. Rien du tout. Même pas un cri pour des jumpscares pourraves, ou non, rien du tout. Donc, ce sera zéro pointé.
Je propose qu'on enchaîne alors avec un quatrième film, vraiment, pour conclure. Hein. C'est un documentaire britannique sur la pop des années 60, avec Michael Caine,
oui.
Qui fait la narration. Peux-tu m'en dire un petit peu plus, Élise, puisque tu es la seule personne qui a vu ce documentaire autour de cette table ?
Oui, avec plaisir. Ben, moi, franchement, je l'ai trouvé assez intéressant. C'est Michael Caine, effectivement, qui commente les images, mais pas seulement, en fait. C'est composé d'images d'archives de ses propres films. Donc Michael Caine, c'est cet acteur anglais qu'on voit dans les Batman, il fait le fameux
Alfred, voilà.
Alfred, ouais. Pour les films un peu mainstream, sinon bon, il a quand même une belle carrière. Et c'est pas mal parce que on part de lui, de sa biographie, pour vraiment dresser un portrait de cette génération des années après les années 50, donc 50, d'accord, 60, 70, toute la génération qui a commencé à contester les règles établies par les parents, qui ont les fumeurs de voilà de marijuana,
fumeurs de quoi
voilà on voit toute cette période de libération avec des témoignages de notamment de Paul McCartney, donc de plusieurs, Marianne Faithfull, enfin, toutes des personnes un peu emblématiques de cette époque-là. C'est vraiment pas mal. Je trouve que la construction, en général, je trouve que les documentaires sont un petit peu trop didactiques. Et ici, au contraire...
Ils arrivent bien à faire des séquences où ils insèrent peut-être de l'archive avec
aussi des interviews. Oui, voilà, c'est ça. Je trouve qu'on voit Michael Caine qui revient sur des endroits qu'il a arpentés quand il était plus jeune dans ses films. Non, franchement,
quand Michael fumait des...
Quand Michael... ouais, il avoue avoir fumé un petit peu, mais il... pas beaucoup. Oui.
C'est Elon Musk qui fume des joints. Voilà un autre
sujet. C'est en pleine interview en plus.
Donc, qu'est-ce que de manière générale, est-ce que tu recommanderais ce film à qui tu recommanderais? Et puis, si tu peux le comparer à d'autres documentaires qui abordent des sujets similaires ou pas?
Je ne saurais pas vraiment le comparer à d'autres documentaires parce qu'honnêtement, je n'ai pas vu beaucoup. Je ne suis pas une experte en documentaires. Après, oui, je recommande à toute personne qui s'intéresse à cette époque-là. Je pense qu'ici, en plus, il y a un anniversaire de mai 68, alors forcément. On a fêté l'anniversaire. Et donc, je trouve que c'est intéressant pour s'imprégner un petit peu cette ambiance-là.
Une génération. Feedback, ouais. Good vibe, années 60, quand la vie était belle.
Voilà.
Si tu peux donner une note, du coup, pour conclure. Oui, Conjuring. La note, c'était zéro, je pense, c'est ça?
Oui.
Pour revenir là-dessus.
Oui, je pensais avoir été assez clair, mais oui. Je confirme que c'était bien zéro.
Et My Generation,
moi, je lui mets 3 étoiles aussi.
305.
Ouais, franchement, c'est pas mal.
Mais bonne semaine.
En parlant de documentaire, il y avait Whitney qui était sorti cet été, que j'avais eu l'occasion de voir à Cannes, qui était un excellent documentaire sur Whitney Houston. Ouais. Qui a réussi presque à me faire pleurer. Je crois que c'est parce que j'étais très fatigué. Il était 22h, quelque chose comme ça. Et je pense que là,
je me souviens, oui.
Je n'en pouvais plus.
Est-ce qu'il y avait un extrait de Bodyguard dedans où il disait j'étais pas de service?
Oui, tout à fait. Je crois que c'est ça qui m'a fait pleurer.
Mais on dit qu'il y a des révélations, apparemment, dans ce documentaire.
Ah oui, qu'il y a eu des trucs avec sa cousine, c'est pas ça?
Mais je sais qu'elle était pas du tout nette, ça c'est sûr, oui.
Il n'y a pas des questions de viol de sa cousine ou je sais pas quoi.
Pas viol, mais peut-être une relation sexuelle ou autre avec sa cousine, oui. Oui.
Il y avait un truc du style, je crois.
Oui, il y avait des histoires un peu... Elles étaient très amies. Très très amies. On va peut-être clôturer cette émission comme toutes les émissions de la saison 1, mais saison 2 oblige, on ne va pas changer une équipe qui gagne. En passant un peu en revue les films en fait, qui sortent cette semaine en Belgique, et c'est à ce moment-là que mon ordinateur ne veut pas charger la page. C'est toujours un grand plaisir. Donc on va peut-être recommencer par parler des films qu'on connaît. C'est My Generation pour les documentaires. Je ne sais pas si dans quel cinéma est disponible, mais bon, allez voir ça en tout cas sur Cine News et les autres sites d'information qui donnent les horaires. Nous avons notamment The Nun.
Mais n'allez pas le voir.
Ça, c'est sans doute le film le plus mainstream de la semaine. Film français, on en a deux qui sont vraiment... en haut du panier, c'est-à-dire Première Année, dont nous on parlait, 3 étoiles sur 5, et Mademoiselle de Jonquière. Il y a également un film, Ma fille, jamais à...
Avec Roche Dizem.
Roche Dizem, ça fait que vous n'avez pas vu. Tu l'as vu?
Si, ouais, moi je l'ai vu.
En un mot alors, si tu peux...
Moi je le recommanderais pas forcément, c'est un père qui... qui s'est saigné au quatre veines pour sa fille, qui est parti étudier à Paris. Je ne sais plus très bien où ils habitent. C'était pas, ils habitent loin, dans les montagnes.
Oula.
Et en fait, il veut la rejoindre à Paris, et puis il se rend compte qu'en fait, elle n'a pas du tout fait les études. Enfin, voilà, elle a complètement décroché, et il part un petit peu. C'est un film qui se passe en une nuit, une soirée, et il part à la recherche de sa fille. Bon, franchement, moi, je n'ai pas trouvé ça spécialement intéressant.
Dispensable, donc.
Voilà.
Dispensable. Voilà, c'était Cinécast, le premier épisode de la saison 2. Ça fait plaisir d'être de retour.
Oui.
Sur ce, on dit quoi? On dit des bisous ou on dit...
On dit des gros bisous et à la semaine prochaine.
Des gros bisous
et
à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Élise, d'être venue.
Avec plaisir. Merci de m'avoir invité, les gars.
Mais avec plaisir.
À bientôt.
Ciao, ciao.
À bientôt.